France Culture, 12h30, le journal Antoine Mercier au micro. Bonjour à tous. La bénédiction Urbi et Orbi du pape François. Il appelle ce matin à la paix pour Jérusalem et à une reprise du dialogue. On sera en ligne dans un petit instant avec Mathilde Imberti. Le premier chef d'État a emboîté le pas à Washington sur la question de Jérusalem. Le président du Guatemala, Jimmy Morales, annonce le transfert de Tel Aviv à Jérusalem de l'ambassade de son pays en Israël. Analyse de Nadine Epstein. Le groupe État islamique revendique un attentat à suicide près d'un bureau des services de renseignement afghans à Kaboul. 6 personnes tuées. En Égypte, une mère de famille privée de ses 2 enfants par un tribunal pour cause d'athéisme. Correspondance de François Hume Ferkataji. Et puis l'agence Bloomberg publie son guide pessimiste 2018. Premier scénario de l'agence qui avait prédit l'accession de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Trump réélu en 2020. Compte rendu d'Hakim Kasmi dans cette édition. Premier invité de la semaine spéciale interview qui s'intitulera « Retrouver le fil de l'actualité », le psychanalyste Jean-Pierre Winter. Au lendemain d'une homélie de Noël qui appelait les catholiques à faire preuve d'hospitalité devant le drame des migrants, le pape François prononce en ce moment même à Rome la traditionnelle bénédiction « Urbi et Orbi » à la ville et au monde. Et il a appelé à la paix pour Jérusalem et pour la Terre Sainte. Il réclame même une solution à 2 États. On sera en ligne dans un petit instant, je pense, avec Mathilde Imberti en direct de Rome, que nous joignons en ce moment. C'est le premier chef d'État, en tout cas, à emboîter le pas à Washington sur la question de Jérusalem. Le président du Guatemala, Jimmy Morales, qui annonce le transfert de Tel Aviv à Jérusalem de son ambassade, l'ambassade de son pays en Israël. Il faut rappeler que lors du vote aux Nations Unies la semaine dernière, 65 pays n'avaient pas approuvé la condamnation de la position américaine. Le Guatemala va-t-il être suivi maintenant d'autres pays? Nadine Epstein, réponse sans doute évidemment dans les mois qui viennent.
Oui, effectivement, difficile de savoir dès à présent si d'autres pays vont emboîter le pas au Guatemala et créer une nouvelle dynamique qui mettrait la question de Jérusalem en tête du processus de paix, alors que jusqu'à maintenant, elle est considérée comme l'un des points les plus épineux, donc à traiter en dernier. Mais avant d'imaginer que les Israéliens et les Palestiniens, aidés par des pays tiers, reprennent l'angle, le transfert de l'ambassade du Guatemala à Jérusalem risque aussi de provoquer des manifestations hostiles, comme il y a eu lieu après l'annonce de Trump. Le Guatemala est historiquement pro-Israël et en 70 ans de relations, Israël a été notre allié, a déclaré le président du Guatemala, Jimmy Morales, qui ajoute qu'après un entretien téléphonique à Benjamin Netanyahou, il a demandé à la ministre des Affaires étrangères guatémaltèque de commencer les formalités pour déplacer l'ambassade du Guatemala à Jérusalem. Réaction immédiate d'Israël, merci le Guatemala, vive l'amitié entre le Guatemala et Israël. Et vous l'avez dit, lors du vote à l'Assemblée Générale de l'ONU la semaine dernière, le Guatemala s'est prononcé contre la résolution qui condamnait les États-Unis, joignant ainsi sa voix à celle des États-Unis, d'Israël, du Honduras et du Togo. Au total, 9 nations ont voté contre, 35 se sont abstenus et 21 n'ont pas pris part au vote face aux 128 pays qui ont adopté la condamnation des États-Unis. Les Américains avaient aussi lancé des menaces de représailles financières contre les pays qui soutiendraient la résolution onusienne. En 1980, lorsque les députés israéliens ont adopté la loi proclamant Jérusalem capitale indivisible d'Israël, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait alors voté la résolution 478 qui demandait aux 13 pays, dont le Guatemala, qui avaient laissé leur ambassade à Jérusalem, de la déplacer à Tel Aviv, ce que le Guatemala et plusieurs et les 13 autres pays d'Amérique latine et centrale avaient tous fait.
Merci Nadine Epstein. Le groupe État islamique revendique un attentat suicide près d'un bureau des services de renseignement afghans à Kaboul. 6 personnes tuées, attentat qui est le dernier en date dans la capitale afghane où les attaques sanglantes se sont succédées ces derniers jours. Le 31 mai dernier, en tout cas, il y avait un camion piégé qui avait tué 150 personnes, blessées environ 400 autres. Et la semaine dernière encore, l'État islamique revendiquait une attaque de plus de 4 heures contre le principal centre d'entraînement de l'armée, toujours à Kaboul. En Égypte, une mère de famille privée de ses 2 enfants pour cause d'athéisme. C'est le tribunal des affaires familiales de la ville qui a prononcé hier ce jugement, qui intervient en pleine campagne de chasse à l'athéisme dans le pays. La direction générale des fatwas, selon qui l'athéisme est un mal qui se répand de manière alarmante au sein de la jeunesse, prépare même une loi qui viserait à le pénaliser pour les oulémas. En effet, l'extrémisme, sous-entendu religieux, et l'athéisme sont les 2 faces d'une même pièce. Correspondance au Caire, François Hume Ferkataji.
Déjà en 2014, une campagne de la sorte avait agité les médias. De multiples cafés du centre-ville avaient été fermés, soupçonnés d'être le lieu de réunion des enfants de Satan. Les officiels avaient dénoncé la présence de 866 athées sur le territoire qui menaceraient l'unité nationale. Un chiffre absurde et inventé pour effrayer ceux qui seraient tentés d'assumer leur athéisme. En Égypte, l'athéisme n'est pas condamné par la loi, mais en faire la publicité est interdit. Début 2015, un jeune homme a été condamné à 3 ans de prison pour avoir annoncé qu'il ne croyait pas en Dieu sur Facebook. Récemment, le célèbre réalisateur Amr Salama a passé plusieurs heures en garde à vue en raison de son dernier long métrage, Cher Jackson, l'histoire d'un imam très conservateur, fan absolu de la pop star Michael Jackson. Le film a fait l'objet d'une sévère campagne de dénigrement pour promotion de l'athéisme. Selon de récentes fuites, le comité parlementaire sur les religions serait actuellement en train de travailler sur une loi permettant de criminaliser l'athéisme. Ces campagnes successives de répression et d'arrestation très médiatisées contre les athées, les homosexuels ou les agents de l'étranger permettent aussi d'occuper l'espace médiatique et de rassembler une large frange de l'opinion, notamment à l'approche de l'élection présidentielle prévue au printemps prochain.
Voilà, on peut retourner à Rome maintenant puisque le pape François a prononcé tout à l'heure son traditionnel message de Noël sur la place Saint-Pierre avant la bénédiction Urbi et Orbi, le pape François qui appelle donc à la paix pour Jérusalem et pour toute la Terre Sainte. On est en ligne avec Mathilde Imberti, bonjour.
Bonjour à tous.
Et le souverain pontife parle même d'une solution à deux États qui auraient donc les faveurs du Vatican.
Oui, absolument, Antoine. Alors, dès les premières phrases de la bénédiction, Urbi et Orbi, il faut le souligner, le pape s'est tourné vers le Moyen-Orient et Jérusalem, rappelant la position du Saint-Siège, le statu quo à Jérusalem. Le pape a souhaité que le dialogue l'emporte et que l'on puisse finalement parvenir à une solution négociée. Hein, je cite sa bénédiction, une solution négociée qui permette la coexistence pacifique de deux États. Et puis après le Moyen-Orient, le pape a poursuivi sur d'autres terres, meurtri par des conflits. Il a poursuivi sur la Syrie, sur l'Irak, le Yémen, un conflit en grande partie oublié, a regretté le pape François. Ensuite, il a cité le Sud-Soudan, la Somalie, la Centrafrique, le Nigeria aussi, et puis le Venezuela. Le pape également, qui hier déjà avait établi le parallèle entre le couple Marie et Joseph, réfugiés à Bethléem, réfugiés actuels, le pape a conclu sa bénédiction par un appel à l'ouverture, à la charité envers les migrants. C'est ainsi poursuivi depuis la messe de Noël hier jusqu'à la bénédiction Urbi et Orbi donnée ce midi place Saint-Pierre à Rome.
Merci beaucoup Mathilde Imberti, donc en direct de Rome pour cette bénédiction Urbi et Orbi. À propos des migrants, un petit mot, puisque le président de la conférence des évêques de France, Mgr Georges Pontier, affirmait hier que la France pouvait et devait faire plus. Emmanuel Macron avait mis en garde fin novembre contre les discours démagogiquement dangereux, je cite, et défendu la politique d'asile de la France. Invité de France Info ce matin, l'adjoint à la mairie de Paris, Yann Brossa, fustige lui la circulaire du gouvernement sur le recensement des étrangers dans les centres d'hébergement d'urgence. On l'écoute.
Cette circulaire m'inquiète énormément. Jamais, par exemple, Nicolas Sarkozy n'avait osé faire une chose pareille. Cela revient, de fait, à transformer les centres d'hébergement en centres de tri. Et cela revient aussi à demander aux associations gestionnaires de ces centres de devenir les adjuvants d'une politique de tri des migrants. Et donc cela me choque beaucoup. Et puis par ailleurs, j'ai quand même en tête les propos d'Emmanuel Macron pendant la campagne des élections présidentielles, depuis la campagne présidentielle, qui étaient des propos qui disaient qu'il faut être capable d'accueillir les migrants de manière digne. Vous savez, en matière d'immigration, j'ai le sentiment qu'Emmanuel Macron parle comme Mère Teresa et agit comme Nicolas Sarkozy, voire pire.
Yann Brossa avec Jean-Michel Apathy. On reste sur les sujets autour de Noël puisqu'on parle maintenant de la défense de la laïcité qui a pris en France de la vigueur ces dernières années, notamment face aux signes extérieurs de l'islam et qui revient un peu comme un boomerang sur les signes du christianisme visibles dans l'espace public ou dans l'enseignement public. Dans l'actualité de ces derniers jours, par exemple, un film sur Noël qui a été jugé pas assez laïque, était suspendu en pleine séance scolaire, des croix, des crèches, des statues considérées comme des atteintes à la laïcité, et même ce brasseur belge qui rebaptise la Lef de Noël, Lef d'hiver. Antoine Maret.
Alors l'histoire de cette séance scolaire est assez étonnante. Le 13 décembre dernier, des écoliers d'un établissement public de Langon, en Gironde, vont assister dans un cinéma à la projection d'un dessin animé. Et en plein milieu de la séance, les enseignants interrompent la projection. Il y a, selon eux, un problème thématique. Le film raconte la naissance de Jésus et n'est donc pas conforme à l'exigence de laïcité de l'école publique. Les enseignants ont donc été surpris par la nature du film et on peut s'en étonner. Le titre L'étoile de Noël fait référence à l'étoile qui, dans l'évangile selon saint Matthieu, aurait guidé les rois mages vers l'enfant Jésus. L'affiche du film montre un nouveau-né dans une crèche entouré de ses parents et d'animaux. Ça rappelle quand même quelque chose. Et un simple visionnage de la bande-annonce du film ne laisse plus aucun doute. Il s'agit d'un film d'animation sur la nativité. On pourrait plaisanter autour de cette histoire devant la légèreté des enseignants. Ils envoient des écoliers voir un dessin animé sans même avoir pris connaissance du contenu des valeurs qu'il défend. On pourrait aussi s'interroger sur l'opportunité d'interrompre le film en pleine projection, source sans doute de frustration pour les enfants. Mais les réactions sur les réseaux sociaux vont bien au-delà. Pour de nombreux tweetos, connus ou anonymes, cette histoire n'est qu'une affaire de plus qui illustre une christianophobie ambiante en France. Après les interdictions de la statue de Jean-Paul II à Plohermel et des crèches dans les mairies. Des propos relayés par une partie de la classe politique issue de la droite conservatrice, voire de l'extrême droite, qui montrent du doigt la laïcité quand elle se confronte au christianisme, mais qui n'hésite pas à la remettre en avant face à l'islam, on l'a vu notamment lors des prières de rue à Clichy-la-Garenne. Cette laïcité à géométrie variable devient donc un simple instrument au service d'idées politiques, un courant identitaire qui met en avant par opportunisme ou conviction, les racines prétendument chrétiennes de la France.
Antoine Maret, merci. Le guide est attendu chaque fin d'année. C'est l'agence Bloomberg qui publie ce guide, guide pessimiste pour l'année prochaine, en 2018. Donc l'idée, c'est de faire proposer des idées parfois provocantes pour faire réfléchir sur la rapidité des changements à l'œuvre dans le monde aujourd'hui. C'est ce qu'affirme Bloomberg. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Antoine, merci.
On va regarder avec vous ces scénarios donc qui nous sont proposés. Scénario de l'agence qui, rappelons-le, avait prédit l'accession de Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2015. Et voilà que Bloomberg nous dit que Trump sera réélu, enfin en tout cas c'est un scénario, réélu en 2020.
Oui, alors après sa réforme fiscale, l'année prochaine, donc en 2018, il dérégule l'économie américaine et sur le front judiciaire, il sera même blanchi par le procureur Mueller concernant les soupçons de fraude et de liens avec la Russie durant sa campagne électorale. En 2020, il est réélu à la tête des États-Unis malgré un mauvais score, mais il profite en fait des dissensions au sein du Parti démocrate entre Sanders et Harris. L'année suivante, il arrive à supprimer l'Obamacare sans nouveau système de santé aux États-Unis, ce qui crée eh bien chaos dans le domaine de la santé et la bulle financière explose, mettant à genoux l'économie américaine.
Alors, il y a aussi la Corée du Nord qui attaque les États-Unis, plus classique.
Oui, Pyongyang lance un nouveau missile en 2018 qui arrive à 30 km des côtes américaines. En 2019, le dictateur nord-coréen meurt d'une crise cardiaque, on l'apprend à la télévision, et son successeur décide de dénucléariser le pays.
Alors, plus grave peut-être, plus personne ne sait distinguer la vérité des fake news. Comment est-ce qu'on peut en arriver là, Hakim ?
Et oui, du coup, en 2019, le géant du web, Facebook, tente de voler à la rescousse en embauchant des milliers de personnes pour supprimer les contenus suspects, mais en vain. En 2020, les PDG de la Silicon Valley estiment et espèrent avoir trouvé un nouveau système grâce à l'intelligence artificielle. Mais voilà, tout tombe à l'eau, car les assistants vocaux des Américains sont piratés pour donner des réponses pro-Trump dans le domaine de l'économie et de la politique internationale.
Alors bon, troisième thème, on en a encore quelques-uns à développer, Hakim, avec vous rapidement. Ce Bitcoin dont on parle beaucoup, qui a beaucoup progressé depuis le début de l'année, ce Bitcoin va remplacer progressivement les banques.
Oui, le Bitcoin, vous savez, c'est cette monnaie virtuelle qui devient une valeur refuge. Alibaba, le champion du commerce chinois en ligne, crée, lui, sa propre monnaie. Quant à des pays comme la Grèce ou encore certains pays africains ou le Venezuela qui ont beaucoup de dettes, ils décident d'adopter le Bitcoin pour se sortir de la crise, car le Bitcoin atteint les 1 million de dollars.
Alors, dernier scénario de Bloomberg, je le rappelle, on est dans les scénarios, ce n'est pas un journal d'information comme les autres, on est dans les scénarios. La voiture électrique disloque l'Arabie Saoudite et ça, c'est finalement assez crédible.
Oui, parce que de nouvelles technologies de batterie permettent de construire des voitures électriques en masse et des voitures pas cher avec une grande autonomie. Et les champions sont en Chine, mais aussi dans la Silicon Valley. Résultat, le cours du baril de pétrole s'effondre et atteint les 10 dollars en 2024, Antoine. Résultat, eh bien, l'industrie pétrolière s'effondre, elle est en faillite. Des émeutes éclatent dans des pays dépendants du pétrole, comme la Russie. Alors on voit bien, Antoine, il est difficile de voir où sont les vrais journalistes de chair et de sang dans un monde qui devient globalisé, tout comme l'information.
Hakim Kasmi, merci. Reste le journal quand même sur France Culture. Premier invité de notre série pour précisément tenter de retrouver le fil de l'actualité, le psychanalyste Jean-Pierre Winter. Bonjour.
Bonjour.
Alors, la règle du jeu cette semaine pour nos invités, elle est assez simple, hein, enfin simple et en même temps parfois difficile, à relier les sujets de l'actualité du jour entre eux en proposant une lecture globale. Bon. Jean-Pierre Winter, aujourd'hui, finalement, c'est pas si difficile que ça, hein, si je récapitule. Le pape, Noël, Jérusalem, l'athéisme, et même encore ce qu'on vient d'entendre pour Bloomberg. Je dirais que l'actualité est un peu cousue de fil blanc.
Cousue de fil religieux, en tout cas. Oui. Apparemment. Il est vrai que les trois religions qui sont engagées dans un conflit armé, gravissime et qui dure depuis quand même très longtemps, sont trois religions, je parle des religions monothéistes, trois religions qui professent, urbi et orbi, l'amour du prochain. Et il est tout à fait étonnant de ne pas prendre la mesure du fait que ces religions qui n'ont jamais d'autres mots à nous proposer que celui d'amour provoque des conflits parmi les plus sanglants sur la planète, et ça va de mal en pis. C'est-à-dire ça a toujours été comme ça, mais c'est loin de s'améliorer. Alors, l'idée que, par hypothèse, je me suis fait de l'affaire, c'est que quand l'amour est mis au poste de commandement des institutions, l'État, tout ce qui concourt à faire que les humains se regroupent. Il fait mine d'ignorer, tout se passe comme si on ignorait que l'amour ne va jamais sans la haine. Et c'est cette ignorance, ce déni du fait que l'amour a partie liée de façon structurale avec la haine, qui nous revient en boomerang de façon systématique. Et vraiment, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a encore aujourd'hui des gens qui imaginent, mais pas seulement dans des domaines qui touchent aux religieux, dans des domaines, disons, dans tout ce qui est domaine sociétal. Pourquoi il y a encore des gens qui s'imaginent que on peut fabriquer des lois au nom ou en s'appuyant sur l'amour, en ignorant qu'il n'y a rien de plus fragile, et pour une raison simple, je crois, en tout cas une des raisons simples, c'est que l'amour, ça marche au un par un, et qu'il n'y a pas un amour qui ressemble à un autre amour. Dès lors que c'est collectivisé, eh bien, il se passe ce que nous pouvons observer depuis la nuit des temps, c'est que l'amour, ça marche entre personnes qui se ressemblent, qui partagent, croit-il, la même identité, au détriment de ceux dont on pense qu'ils ne nous ressemblent pas. Et du coup, on en vient effectivement à essayer de creuser systématiquement le sillon de l'identité, alors que c'est une question que je me suis posée. Alors que le problème, c'est pas de fonder l'identité, notamment au nom de l'identité d'amour. Le problème, c'est de fonder l'altérité.
C'est, je vais vous dire, on peut quand même aimer l'étranger, par exemple. Vous
oui, dites, on aime mais pas sur ordre. Proche. Pas sur ordre. C'est-à-dire, dès lors que ça devient un commandement surmoïque, il y a deux possibilités. Ou bien on fait semblant de s'adapter, et c'est ce que Freud appelait l'hypocrisie civilisatrice. Mais ce semblant, à un moment donné, il craque de tous les côtés, c'est un vernis. Hein, et la première occasion, le vernis se fond. Hein, ou bien, on y croit vraiment, mais encore une fois, c'est au détriment de celui que je ne considère pas comme mon prochain. Et donc il suffit que je décrète que tel autre n'est pas mon prochain, les Indiens à une époque, les Noirs à une autre époque, les Juifs récemment et encore aujourd'hui, pour que, eh bien, on n'ait pas l'impression d'être en contradiction avec soi-même, puisque on aime les autres, même si on fait semblant d'ignorer que c'est parce que on n'a de la haine pour qui n'est pas notre proche.
Alors c'est un peu terrible quand on vous entend effectivement lier ces deux sentiments entre eux. Est-ce qu'on peut pas imaginer, bon d'abord peut-être sur quoi pourrait-on fonder quelque chose de collectif si on doit laisser de côté l'amour comme vous le dites, comme vous le proposez, sur quoi on va fonder un projet de société, rassembler des gens, faire tenir une société, une collectivité?
Ce qui fonde la société sur l'obligation d'amour ou l'idéologisation de l'amour, la collectivisation de l'amour, sont des vendeurs d'illusions. La seule chose qui résiste, me semble-t-il, et on en a l'expérience dans la plupart des démocraties, c'est de se fonder sur la loi. Non pas sur le fait qu'il y a en chacun d'entre nous des kilomètres ou des kilogrammes ou des kilolitres de réserve d'amour, mais sur le fait que nous partageons un même texte, qui est en plus révisable. Que nous pouvons décider collectivement par la loi de changer les choses, mais pas au nom du fait que, eh bien, nous allons tabler sur le fait que nous nous aimons les uns les autres et que, bon an mal an, même s'il y a quelques brebis égarées dans le troupeau, l'ensemble finira par aboutir à un vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, qui sera tolérable. D'autant que l'expérience multiséculaire montre que chaque fois qu'on a tablé là-dessus, qu'on soit religieux ou pas d'ailleurs, hein, vous voyez les régimes soviétiques, marxistes et autres, chaque fois qu'on a tablé là-dessus, on a fait des millions et des millions de morts. Donc ça marche pas.
La loi contre l'amour, est-ce que c'est le remake, si je puis dire, de Moïse contre Jésus?
D'abord, Jésus s'est jamais opposé à la loi, il faut le rappeler. Pas un iota de la loi ne sera changé avant que mon règne ne s'accomplisse, dit-il. Je ne suis pas venu pour supprimer la loi, mais pour la parfaire, répète-t-il par ailleurs. De quoi on parle quand on parle de loi? Je crois qu'on, entre autres, on parle du fait que la loi est ce qui reconnaît et impose d'une certaine manière des séparations. La séparation fait loi. D'ailleurs, il faut remarquer que là où il n'y a pas de séparation, là où on est dans le règne de la fusion, voire de la confusion, le système devient très rapidement incestocratique.
Je reste juste une minute, oui. Parce que justement on essaye de brasser beaucoup de choses de l'actualité. Non, on voit bien que cette question de séparation devient quelque chose de plus en plus difficile à justifier, à défendre. Enfin, en tout cas, on le constate que les frontières ont tendance à s'effacer entre différentes catégories de choses.
Eh bien, on peut aussi, dans le même temps, constater que ça a des conséquences absolument dramatiques, comme par exemple, je vais pas avoir le temps de développer, mais comme la montée des extrêmes, par exemple, qui s'opposent justement à la disparition des séparations, même s'ils ne savent pas que c'est pour ça qu'ils le font.
Alors, c'est quoi la disparition des séparations que vous voyez essentiellement
aujourd'hui ? Par exemple, le système, je vais prendre un exemple qui nous concerne aujourd'hui en France, la disparition, par exemple, je vais dire les choses comme ça, la séparation, c'est ce qui permet l'alliance. Là où il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'alliance possible. Exemple, ce qui se passe à la tête du Front National depuis des années. À la tête du Front National, on a des gens qui fusionnent pendant des années. D'ailleurs, vous remarquerez que ça ne les protège pas d'une explosion de haine. Mais en tout cas, ça fait que depuis qu'ils existent, ils ne peuvent faire alliance avec personne. Ils ne connaissent pas l'alliance. On pourrait dire à l'échelle des États, à l'échelle du monde, partout où on nie qu'il y a des séparations. Les séparations, c'est par exemple les séparations qu'imposent les généalogies. Le fait qu'une génération n'est pas identique à la génération d'avant, ni même à la génération d'après. Ça ne fige pas les choses, puisque chacun est en charge de récupérer un héritage et d'en faire ce qu'il veut, et de créer à partir de ça. Mais celui qui nie au nom, par exemple, d'une certaine horizontalité, qu'il doit y avoir des séparations entre les générations, celui-là crée de la confusion, et la confusion entraîne nécessairement du conflit.
Il y a aujourd'hui, par exemple, aussi les animaux qu'on commence à intégrer dans la nature du vivant avec l'homme sans forcément qu'on voit bien où est la séparation.
Formidable votre réflexion, formidable. Parce que c'est nier, et on a affaire à de la dénégation depuis le début de notre discussion, c'est nier que ce qui est spécifique de l'homme, et on est loin d'en prendre la mesure, c'est ça qui est extraordinaire. Ce qui est spécifique de l'homme, c'est que il est marqué par le fait qu'il est un animal parlant. Et que les animaux ne sont pas parlants.
Alors on dit qu'ils communiquent quand même entre eux.
Oui, mais communiquer n'est pas forcément parler. Communiquer, c'est, ça peut se faire effectivement.
Il y en a des communicants, des hommes
voilà,
aussi.
Voilà, et puis on a même dans notre culture des communicants, ça ne veut pas dire qu'ils parlent. Hein. Et Pierre Legendre rappelait dans un de ses travaux que le parlant est un être généalogique. Et que ça n'est pas le cas des animaux. Les animaux ne sont pas généalogiques. Les animaux, quels qu'ils soient, pour autant qu'on le sache aujourd'hui, se contrefichent de savoir qui est leur grand-père, leur grand-mère ou leur arrière-grand-père.
Jean-Pierre Winter, merci, il faut s'arrêter là. Malheureusement, on aurait pu déployer ce fil que vous nous avez retracé pour l'actualité, effectivement, qui se semble assez pertinent pour expliquer un grand nombre de choses, en tout cas pour rendre raison d'un certain nombre de choses. Demain, nous serons avec la politologue Myriam Revaud-Dallone pour retrouver le fil de l'actualité. Un temps généralement ensoleillé cet après-midi, température de 7 à 16 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard, prochain journal 18h avec Lise Verbeck.